poursuivre sur le thème, sur le sujet de la grâce. Cette grâce merveilleuse de Dieu. Peut-être que c'est plus facile si je mets ça quelque part dans ma poche. En 1713, lors de la guerre des Cévennes, le roi Louis XIV gracia 136 protestants qui avaient été condamnés à finir leur vie aux galères. Ils furent ensuite envoyés en exil en Angleterre. Plus près de chez nous, fin décembre 2016, le président Hollande gracia une femme dont les initiales commencent par J.S., une femme qui avait été accusée du meurtre de son mari. Alors cette femme n'avait rien fait pour mériter sa libération. Elle n'avait pas fait amende honorable, elle n'avait pas de circonstances atténuantes, elle n'était pas trop âgée que pour terminer sa vie dans une cellule, ni trop jeune pour passer toute sa vie entière dans une prison. Elle était condamnée et la justice avait scellé sa condamnation. Seule, elle n'avait rien à mériter, elle n'avait rien à faire valoir. Seule, le bon vouloir et la grâce présidentielle ont pu orienter différemment son sort. Aux États-Unis, comme près de chez nous en France, il arrive que des criminels, que des personnes soient bénéficiaires de la grâce, d'une suppression de peine. Ainsi, par exemple, l'auteur d'un braquage, condamné à X années de prison, ou même condamné à mort, peut voir sa peine levée et retrouver la liberté par pure grâce. Toutefois, la condamnation dont il fait l'objet restera mentionnée sur son casier judiciaire. À la différence de l'amnistie qui, elle, non seulement lève la sanction qui a été décernée sur celui qui est coupable, mais en plus de cela, l'amnistie ne mentionne pas le motif de condamnation qui pesait sur le condamné. Et c'est précisément autour de cette amnistie, autour de la signification du mot amnistie, que se rapproche le plus la notion de grâce divine. Dieu pardonne et il a cette faculté, s'il le veut, et il le veut, d'oublier, de ne plus se souvenir de nos péchés. Et à bon nombre de reprises dans la parole de Dieu, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, on voit que Dieu, lorsqu'il pardonne, a cette faculté d'oublier. Ainsi, par exemple, Ésaïe chapitre 43, versets 24 et 25 nous dit, nous lirons le verset 25, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Dieu a cette faculté d'oublier. Une amnistie. Et c'est intéressant de noter précisément que le mot amnistie, étymologiquement, signifie, dans l'original, il ne s'agit pas d'original, mais en grec, amnestia signifie pardon, oubli. Donc la notion d'amnistie se rapproche le plus près de la notion de grâce divine. Le Seigneur oublie les péchés dont nous avons été, dont nous sommes rendus coupables. Et j'aimerais avec vous, ce matin, rappeler trois exemples qui seront tirés de la parole de Dieu, de grâces particulières qui ont été accordées à trois personnages. Deux dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament. Alors le premier, c'est le roi David. David a transgressé à trois reprises la loi de Moïse. Et à trois reprises, il aurait mérité d'être lapidé. Il a commis un adultère, comme nous le savons, avec Bathsheba, l'épouse d'Uri. Il a commis le meurtre en envoyant Uri en première ligne pour en être débarrassé et pour pouvoir s'approprier son épouse, Bathsheba toujours. Et puis il a menti. Lorsqu'il a appris que Bathsheba était tombée enceinte, il a essayé de faire porter la paternité chez Uri en le ramenant du front pour qu'il passe un moment avec sa femme. Adultère, meurtre, mensonge. Mais le roi David a fait amende honorable et est passé par une authentique repentance. Il a reconnu ses péchés et il s'est repenti. Et 2 Samuel chapitre 12, verset 13, nous dit, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. » David a donc plaidé coupable et a été pardonné. La grâce de Dieu lui a été accordée. Premier exemple. Deuxième exemple que nous tirons de la parole de Dieu, c'est l'histoire du roi Manassé qui vécut au 7e siècle avant Jésus-Christ. Une histoire plus interpellante, bien plus interpellante que l'histoire du roi David. Manassé, qui pourtant a lui aussi bénéficié de la grâce de Dieu. Alors nous lirons dans le deuxième livre des rois, au chapitre 21, les 18 premiers versets. Tu étais vite. Alors Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et régna 50 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hephzibah. Excusez-moi pour la prononciation. Il dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel ait dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit, verset 6, passer son fils par le feu, il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il établit des gens qui évoquaient les esprits et prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les nations que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus errer à pied le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Mais ils n'obéirent point, et Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Au verset 10. Alors l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs les prophètes. Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ces abominations, parce qu'il a fait pis que tout ce qu'avait été, que tout ce qui avait été, tout ce qui avait, tout ce qu'avait fait avant lui, pardon, les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. Verset 13. J'étendrai sur Jérusalem le cordon de Samarie et le niveau de la maison d'Akab, et je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus, après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai, verset 14, le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Et ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis, parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre. Outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, le reste des actions de Manassé, tout ce qu'il a fait et les péchés auxquels il se livra, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Manassé se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans le jardin de sa maison, dans le jardin d'Ouza, et Amon, son fils, régna à sa place. Manassé. Manassé est au royaume de Juda ce que Akab, avant lui, fut au royaume d'Israël. Il était son alter ego au niveau des abominations qu'ils ont commises devant l'Éternel, devant Dieu. Et le texte nous décrit Manassé, fils du roi d'Ézéchias, comme quelqu'un d'impie et d'impunissable. Tout d'abord, il rétablit les hauts lieux que son père Ézéchias avait pourtant détruits de son vivant. Il construisit aussi des autels en l'honneur de Baal, divinité des Philistins. Il érigea un poteau sacré qu'il plaça dans le temple de Salomon en l'honneur d'Astarté ou Achéra, la déesse de la fertilité. Et on sait que la dévotion que l'on décernait à cette déesse était accompagnée de rites orgiaques, orgies. Il fit passer son fils à travers le feu. En d'autres termes, il le brûla vif pour le sacrifier à des idoles, à des dieux païens. Il s'adonna à la magie, il s'adonna à la nécromancie, il s'adonna à la sorcellerie, il s'adonna au spiritisme. Et pourtant, Manassé savait très bien, pertinemment très bien, que Dieu, dans la loi de Moïse, réprouvait toutes ses actions. Il connaissait certainement le livre de Deutéronome, chapitre 19 ou 18, je ne me souviens plus, dans lequel nous lisons qu'on ne trouve personne chez toi qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts, En effet, quiconque se livre à de telles pratiques est en horreur à l'Éternel. Manassé connaissait ces textes. Et pourtant, il s'est adonné à des pratiques abominables devant l'Éternel Dieu. En outre, la tradition juive le rend responsable aussi de la mort du prophète Ésaïe, qu'il aurait scié dans le tronc d'arbre dans lequel il se serait réfugié, dans lequel il aurait trouvé refuge. Alors, on n'imagine pas, bien évidemment, qu'un tel être, qu'un tel homme puisse avoir été au bénéfice de la grâce de l'Éternel pour ses méfaits. On est à mille lieues de s'imaginer qu'un type pareil ait pu bénéficier de la grâce de Dieu. D'autant plus que Dieu l'a châtié en faisant venir les Assyriens qui l'ont emmené captif à Babylone. Et on aurait trouvé juste, on aurait crié justice, s'il était mort dans d'atroces souffrances là-bas, en terre lointaine. Et pourtant, le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 33, nous apprend que ce roi infâme, impie, a été au bénéfice de la grâce de Dieu, a vu ses péchés être pardonnés. C'est choquant à la limite. Et nous lirons donc dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 33, deuxième livre des Chroniques, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Et on peut lire sur l'écran. Alors, l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi de Syrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu. Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Et puis on voit que effectivement, il a tenté de faire amende honorable devant Dieu dans les versets suivants dont nous n'allons pas faire la lecture. Difficile d'imaginer qu'un tel monstre ait pu bénéficier de la grâce de Dieu. Mais c'est finalement ça la définition de la grâce de Dieu, comme nous l'avons vu en introduction, c'est une faveur imméritée. Une faveur imméritée. Si tu gardais le souvenir des fautes, éternel Seigneur, écrit David au psaume 130, versets 3 et 4, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Nous, si nous avons le choix, nous avions le choix personnellement d'accorder notre grâce à quelqu'un qui est incarcéré, par exemple, certainement que nous choisirions le moins mauvais parmi les prisonniers. Mais pour Dieu, nous sommes tous coupables. Pour Dieu, nous sommes logés à la même enseigne. La désobéissance, 1 Samuel chapitre 15, verset 23, et le prophète écrit ceci, la désobéissance est aussi grave que la divination, et l'insoumission aussi grave que l'idolâtrie. Pour Dieu, un pécheur est un pécheur, et la grâce qu'il accorde, il l'accorde au plus grand des pécheurs. Le troisième exemple que nous allons rappeler, c'est l'exemple bien connu de la femme adultère que nous trouvons dans Jean chapitre 8. Nous lirons les 11 premiers versets. Jean chapitre 8. C'est un passage évidemment bien connu, mais qu'il est bon de rappeler pour mettre en évidence la grâce incommensurable de notre grand Dieu. Jean chapitre 8, les 11 premiers versets. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, ces paroles bien connues, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, ils accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10. Pardon. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il accusé ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Va et ne pêche plus. Les scribes et les pharisiens personnifient l'accusateur de nos âmes. Jésus, lui, est notre défenseur, personnifie le défenseur, l'avocat, celui qui défend. Il est peut-être intéressant aussi de voir à travers la position que Jésus prend, la position assise, courbée, voir quelque chose de symbolique en ce sens que Jésus semble prendre l'opprobre, la culpabilité de cette femme sur lui. Il s'abaisse devant les scribes et les pharisiens. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? Demandent les scribes et les pharisiens à Jésus. Et Jésus leur rétorque par ces paroles bien connues, que celui qui n'a jamais désobéi à la loi lui jette le premier caillou. Alors, sur cette réplique, les adversaires de Jésus sont confondus. Ils se rétractent et ils finissent par se retirer. Parce qu'ils savent, d'une part, que la loi de Dieu est une loi parfaite et que eux sont loin d'être parfaits. Même s'ils affichent une façade, un extérieur de piété, pieux, ils savent que dans le secret de leur fort intérieur, de leur cœur, de leur pensée, ils ne sont pas purs, ils ne sont pas parfaits. Ou peut-être qu'ils n'ont pas commis d'adultère, on n'en sait rien, mais n'ont-ils jamais convoité dans leur cœur une femme ? Jésus les confond par la grâce qu'il affiche. La grâce a parlé, la grâce a libéré. La loi condamne et tue, la grâce pardonne et sauve. Alors cela ne veut pas... Jésus termine son discours avec cette femme en lui disant « Va et ne pêche plus ». Ça ne veut pas dire, bien évidemment, que cette femme, du jour au lendemain, est devenue parfaite, Peut-être et sans doute qu'elle ne retournera plus dans son travers initial, l'adultère, mais dans cette vie, dans cette nouvelle disposition d'esprit qu'elle a pris, certainement qu'elle aura encore besoin de s'appuyer sur la grâce souveraine de Dieu, la grâce souveraine de Jésus. On pense parfois, à tort, que la grâce n'est valable que le jour de notre conversion. Et puis qu'après, on est capable de suivre, d'obéir à tous les commandements et à toutes les exigences du Nouveau Testament pour plaire à Dieu. Mais c'est une autre forme de légalisme. Parce que quand on s'aperçoit qu'on est incapable, même après notre conversion, d'observer à la perfection la loi de Dieu, on a bien besoin de s'appuyer sur sa grâce. On a bien besoin, lorsqu'on arrive à ressentir au plus profond de nous-mêmes un sentiment profond de culpabilité, un découragement, on en arrive parfois à douter même de notre salut, il est bon de savoir que la grâce qui a été effective le jour de notre conversion l'est tout autant après notre nouvelle naissance. La grâce est présente au quotidien à nos côtés. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau, nous dit le psalmiste 65, verset 2. La grâce coule toujours à flot et heureusement. Le Saint-Esprit nous aide bien à vivre pour plaire à Dieu, à remporter des victoires, mais quand la chair malheureusement refait surface, nous avons encore bien besoin de la grâce de Dieu. Tout notre cheminement, toute notre croissance spirituelle reste accompagnée de la grâce de Dieu. On en a besoin. On a besoin de vivre en permanence, tous les jours, jusqu'à notre trépas, nous en aurons besoin. Nous aurons besoin de nous appuyer sur la grâce de Dieu. Chaque jour, j'ai besoin personnellement de m'appuyer sur la grâce de Dieu. M'appuyer sur la grâce de Dieu. Ô merveilleuse grâce de Jésus sur laquelle je peux m'appuyer. Qui est Dieu comme toi, pardonnant la faute, Michée 7, versets 18 et 19, et passant sur le crime en faveur du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bienveillance. Il aura encore compassion de nous. Il mettra nos fautes sous nos pieds. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Un verset qui met encore en évidence le fait que si Dieu nous accorde, lorsque Dieu nous accorde sa grâce, nous accorde son pardon, il ne veut plus se souvenir de nos péchés. Il ne veut plus se souvenir de nos iniquités. Un oubli total. Une amnistie entière. Une remarque est importante. Cependant, si la grâce a surabondé là où le péché a abondé, comme nous le rappelle l'apôtre Paul, la grâce de Dieu ne doit pas être utilisée comme une licence pour le péché. Jude, au verset 4 de son épître, il n'y a pas de chapitre, au verset 4 de son épître, nous dit « Car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture se sont infiltrés parmi vous, ce sont des impies qui travestissent en débauche la grâce de Dieu en reniant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. » La grâce n'est pas un prétexte pour laisser la chair s'exprimer. Ça, c'est propre aux faux chrétiens. À ceux qui ont changé la grâce de Dieu en dissolution. Pour conclure, es-tu écrasé par le poids d'une faute, par le poids d'un péché, par le poids de ta culpabilité? Est-ce que des remords profonds t'empêchent d'avoir la paix avec Dieu et la paix avec toi-même? Si tel est le cas, sache que aucun péché n'est trop grand, n'est trop grave que pour que Dieu ne t'accorde la grâce, sa grâce, que pour que Dieu ne te pardonne. Considère la vie de David. Considère la vie de Manassé. Considère la vie de cette femme adultère. Il y a une bonne nouvelle. Si nous confessons nos péchés, nous rapporte Jean, 1 Jean, chapitre 1er, verset 9, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous inviter à prendre un nouveau départ, pour nous inviter à prendre à commencer une nouvelle vie avec Christ. Oui, merveilleuse grâce de Jésus. Et si tu es déjà chrétien, mais qu'un péché te tient, te lie en quelque sorte encore captif, ce même verset de 1 Jean chapitre 1 verset 9 est encore valable aussi pour toi dans cette circonstance particulière. Si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Ce verset est aussi valable pour toi dans de telles circonstances. Saisis-le. Saisis la grâce de Dieu. Saisis le pardon de Dieu. Relève-toi et demande à Dieu de t'aider à être victorieux, à être vainqueur par son esprit puissant qui agit et qui est présent en permanence dans ta vie. Dieu est un Dieu de grâce et sa grâce est toujours valable aujourd'hui, chaque jour de notre vie.